au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto360.
Auto360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto360. Nous allons parler automobile au cours des deux prochaines heures. Et aujourd'hui, je vous laisse sujet libre. Hein, vous pouvez me parler de n'importe quoi. Vous voulez me parler de la voiture électrique? Pas de problème, on va parler de voiture électrique. Nous en sommes rendus, je pense, autour de 19 000 voitures électriques sur les routes en ce moment. On veut se rendre à 100 000, vous le savez, en 2020. Vous pouvez m'en parler. Vous pouvez me parler des nouvelles voitures, des anciennes voitures. Vous pouvez me parler de qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui parce que je vous laisse le sujet libre. Alors, je vous donne tout de suite les numéros avant de parler avec Philippe et Marc. Pour les gens de Montréal, 514-790-9850. Les gens de Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850. Ou encore, Auto360 à cogecomedia.com sont les façons de nous rejoindre. Salut Marc!
Salut mon cher!
Comment ça va?
Ça va très bien. T'as-tu fini ton magasinage de Noël, Daniel?
Presque. 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 Et je me suis déplacé pas mal sur les routes. Ça prend du courage. Ça prend du courage faire ses cadeaux à la dernière minute. Se trouver un stationnement dans un centre d'achat. Tout le monde est pressé. Ah, oh, c'est épouvantable.
Surtout que les gens sont tellement courtois dans les centres d'achat. Écoute, c'est épouvantable. C'est vraiment affreux.
Sauf nous sommes que tous pareils. Dois... On veut pas marcher. On veut tous avoir le stationnement le plus près.
Oui, puis on est trois à attendre après la même place qui est en train de se libérer. Puis c'est le premier qui va rentrer. Ouais, j'ai vécu ça aussi ce matin, mon cher.
Je sais pas si Philippe a fait, lui, ses emplettes. Salut, Philippe.
Presque toutes, moi aussi. Il y a toujours l'imprévu de dernière minute qui te tombe d'en face, mais heureusement, c'est ouvert le 24 aussi. Fait que on va régler ça demain.
On va finir ça demain matin.
C'est complété à 90%.
Bon garçon, Philippe. Bon garçon, tu nous parles de quoi?
Ben, écoute, je pense que c'est vraiment le temps de faire les rétrospectives. Hein?
Bon.
J'ai eu une année, je pense, exceptionnelle au chapitre des essais routiers, puis c'est le fond. On avait une chronique quand même assez unique aussi, hein? Une chronique luxe et prestige. On n'entend pas ça, puis on voit pas ça beaucoup, puis on lit pas ça beaucoup. On avait ce privilège-là à Auto 360. Alors, on va revenir avec les moments forts, mais on va aussi parler de Formule 1, une fois n'est pas coutume. Puis ça aussi, c'est le temps de la rétrospective. Puis si on parle de Formule 1, on va évidemment, c'est incontournable, on va parler de Lance Stroll.
On va parler de notre Québécois, bien sûr.
Bien sûr.
Faut en parler. Et Philippe, si tu veux rester là, juste avant d'aller justement parler aux gens, faut parler un peu des déplacements, parce que dans la période et durant la période du temps des fêtes, les fameux déplacements, on s'en va chez la visite, on s'en va chez la parenté à l'extérieur, on sait qu'on fait beaucoup de routes. Moi, je fais le parc des Laurentides, il y en a d'autres qui font d'autres routes, des fois qui sont plus ou moins bien déneigées. Donc, les fameux déplacements, et évidemment, il faut y aller dans les conseils d'usage de ces fameux déplacements pour, un, préparer sa voiture, se préparer soi-même, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on n'apporte pas dans la voiture, et évidemment, il faut prévoir, parce que là, dans les prochains jours, là, il annonce vers la fin de la semaine prochaine des froids sibériens. Alors ça veut dire que si votre batterie fait déjà des petits signes, vous démontre déjà des petits signes de faiblesse, ou si vous avez déjà fait quelques survoltages avec votre batterie, ça serait peut-être le temps de la remplacer, parce qu'elle va sûrement mourir au cours des prochains jours, parce qu'il va faire très froid. Donc, les conseils d'usage. Vous avez quoi, vous, à laisser aller, les gars, comme conseil?
Ben, moi, je pense que tu as dit le mot-clé, c'est prévoir. À prévoir, oui, faut faire le tour de notre voiture, s'assurer que tout est vraiment en bon état, puis pas juste en bon état, en état optimal, que ce soit la pression des pneus, que ce soit la batterie. Mais quand tu dis prévoir, Daniel, faut aussi prévoir ses déplacements. Et pour ça, désormais, il y a des outils, hein. Il y a Google Maps, il y a Waze. Et si vous êtes pas très techno, ben, il y a même une station de radio. Puis là, évidemment, je prêche pour ma paroisse. parce qu'il y en a qui le savent peut-être pas, mais je suis aussi animateur à Radio Circulation 730. Alors ça, évidemment, c'est votre meilleur outil pendant le temps des fêtes. Parce que là, vous avez des gens qui font juste ça. Ils ont le nez collé dessus, comme on dit, là. Alors pendant les deux prochaines semaines, vous allez, puis je le sais qui va être là pendant le temps des fêtes aussi. C'est pas juste nos réguliers. C'est nos surnuméraires, puis on en a vraiment des très, très, très bons là-dedans. Nous autres, on est une équipe, contrairement aux Canadiens, on est une équipe qui a de la profondeur.
C'est très bon.
Alors, vous avez ça comme outil, puis je termine en vous disant que vous avez un autre outil qui est, tu sais, si vous avez besoin de l'information tout de suite, là, rapidement, c'est le site de Transport Québec. Québec 511. Là, si vous voulez savoir si telle route est fermée, telle bretelle est fermée, telle bretelle est ouverte, etc., tout est là. Québec 511.
Voilà. Merci beaucoup, Philippe.
Ouais. Alors, Marc, toi? Écoute, ben, je pense que je suis d'accord avec Philippe, évidemment. Écoutez, Radio 730, rappelle-toi l'année dernière, le fameux débat sur l'autoroute 30, ou 13 plutôt, où tout le monde était resté coincé. C'est Radio 730 qui a sauvé tout le monde puis qui a permis d'être toujours au courant. Alors ça, c'est le premier bon conseil. Le deuxième, c'est tout simplement de s'adapter à la nature. Si on voit mal... Roulez pas 100 km/h. Vous avez le droit de rouler 80, puis il y a personne qui va être choqué après vous. Il faut adapter son comportement à l'environnement, à la façon dont ça se déroule. Freiner, faut anticiper les freinages. C'est juste de dire, regarde, ça se peut que ce soit glissant. Je vais juste faire un peu attention d'avance au lieu de faire exactement comme si c'était l'été, puis c'était tout à fait sec et facile de contrôler. Là.
Il y a aussi de se donner du temps. Partir un petit peu d'avance et de laisser un petit peu le sentiment d'urgence. Arriver 10 minutes plus tard, là, c'est pas grave, d'abord que vous arrivez. Alors, s'adapter aux conduites, ça veut aussi dire prendre ça un peu plus relax, prendre ça un peu plus cool, c'est le temps des vacances, assurez-vous d'arriver. Philippe a donné plein de points intéressants, là, comme la pression d'air, on vérifie l'huile, on fait le plein de son véhicule, on s'assure d'avoir peut-être des vêtements chauds dans l'auto, parce que, bon, les tempêtes, là, justement, l'autoroute 13, ça nous a donné une bonne leçon d'avoir des vêtements chauds, d'avoir des collations aussi à l'intérieur, pourquoi pas une pelle, on va dire, on met un cadeau où, je sais bien, là, faut faire des choix, là.
Mais, ouais, mais ils se vendent des petits ensembles, Daniel, là, tout à fait facile. Ben c'est ça. L'appel est repliable et ça prend pas de place. Là.
Exactement. Donc, on transporte aussi une chandelle. Ça, c'est bien important dans son véhicule. Et surtout, on ralentit, on lève le pied. Ça, c'est le conseil numéro un. Et on s'adapte, comme tu as dit, Marc, aux conditions de la route parce que rouler dans la neige, dans la tempête, visibilité réduite, combien de fois on se fait dépasser à vive allure, puis on se dit, mais comment ça, moi je vois rien, puis lui il voit tout, puis pas longtemps, plus loin tu le vois dans le décor. Donc il faut faire attention, c'est le temps des fêtes, puis on va avoir tout le monde en santé, et on va avoir de beaux parties. On va faire une pause, puis au retour, on a déjà des gens en ligne, fait qu'on répond aux questions.
Au réseau Cogeco, Auto 360,
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Nous voilà de retour et d'entrée de jeu, on a Vincent en ligne. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben oui, superbe.
Oui, je suis sur la route en direction d'Ottawa.
Oui.
Dans l'esprit des fêtes puis d'aider au Père Noël, je partais à 6 heures ce matin pour aller chercher quelque chose qu'il n'y avait pas à Ottawa pour ma petite. Alors là, je suis sur le chemin de retour, elle va être contente. Mmh. Et je file à 70 km/h sur la 40 ouest. Je me fais dépasser, puis un monsieur qui allait un peu trop vite, d'après moi, s'est ramassé dans le champ au kilomètre 20. Fait que le monde ne comprenne pas, ils n'allument pas leur lumière, ils essayent d'aller vite, puis c'est triste de voir qu'il faut encore répéter ça.
Bien, ça semble un discours sans fin. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas capable de bien évaluer les conditions routières et s'adapter à la vitesse. Est-ce qu'on est pressé à ce point-là?
Je ne sais pas. Moi personnellement, je conduis une Infiniti Q50 2015. J'ai 4 bons pneus d'hiver. Je roule sur le cruise control à 80, donc il n'y a pas d'accélération. Je me laisse beaucoup, beaucoup d'espace entre moi et le gars en avant. Là, je suis dans la voie de droite, tout le monde me dépasse. Je suis sûr que si on se parle 2 minutes, il va en avoir un dans le champ. En tout cas, c'est pas la raison pour laquelle je vous appelais.
Okay.
Moi, je me demande si, dans les informations que vous avez, en 2020, je vais avoir 50 ans, puis j'aime beaucoup les Infiniti. J'ai un QX60 que j'ai acheté au printemps pour mon épouse, puis moi j'ai la Q50, qui est la voiture, qui va très bien. Je me demandais, la Q60, rendue en 2020, parce que je sais qu'on voit toujours des prototypes quand on regarde sur Google, je me demandais, est-ce qu'il y a de quoi dans le futur pourrait nous permettre de penser que la Q60 rendue en 2020 pourrait venir en convertible et aussi peut-être pourrait augmenter un petit peu la puissance. C'est à 400 chevaux, c'est bon, je l'ai essayé, mais je trouve que la Lexus, ils ont un modèle Lexus, le modèle m'échappe, mais la deux places, je crois que c'est 427 ou 437 chevaux, puis il y a une bonne différence. Fait que je me demandais si Infiniti va essayer de continuer à se frotter à Lexus ou il laisse Lexus prendre les devants.
Ben, en fait, ce que l'on sait, c'est que oui, vraisemblablement, il y aura une version cabriolet qui va être offerte de la Q60,
Marc,
qui est de toute façon une magnifique
Marc,
voiture.
Marc, ça fait longtemps qu'on nous promet ça.
Oui.
La G30, tu te souviens de la G35 et de la G37? Oui. On voulait toujours nous l'offrir en version cabriolet, ça n'a jamais
oui, oui. Ça fait partie des promesses récurrentes d'Infiniti, mais tu sais, on est quand même obligé de se fier à ce qu'ils nous disent. En revanche, au niveau de la puissance, je pense qu'on va pas mal suivre. On va pas mal rester là où on est. On a la Red Sport là, qui est pas mal la plus puissante de toutes les Infiniti. Je pense pas qu'on va aller au-delà de ça. La personnalité qu'Infiniti veut se donner, c'est pas la personnalité de voiture de performance, c'est plus tourné vers le, je dirais, le confort, le luxe, c'est là qu'on veut aller partout au monde. Alors, ça m'étonnerait énormément que la puissance augmente.
OK. Ben moi, je sais bien que dans la mienne, j'ai 328 forces, si je me trompe pas, puis c'est assez agréable. Là. Rendu à 47 ans, quand il y a des petits gars de 23 ans, civiques, ils pensent que parce que tu as des cheveux gris, que tu ne te souviens pas comment peser sur l'essence. Juste un petit peu pour pas aller trop vite.
Mais il faut peser quand c'est le temps, Vincent. Quand c'est le temps. Merci beaucoup d'avoir appelé Bien Gentil. On a Louise en ligne. Bonjour, Louise.
Oui, bonjour. Moi, je suis pas sur la route. Je suis en train d'emballer mes cadeaux en pyjama bien au chaud.
J'ai hâte de savoir le mien.
C'est une surprise. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de la B250 de Mercedes usagée?
Usagé comment? Combien de temps?
C'est une 2000... celle que j'ai vue, là, c'est une 2015. 2014 ou 2015?
Je trouve ça honnête. La seule affaire... Ben, les anciennes B, quand il y avait le 200, moi, je n'étais pas là vraiment, là, parce que je ne trouvais pas que c'était des vrais Mercedes. La 250, on a ajouté là, bon, le design intérieur surtout. On a placé des matériaux un peu plus haut de gamme et un peu moins de plastique à l'intérieur du véhicule. C'était un peu plus agréable. Ils ont fait des améliorations que j'aimais bien. Par contre, c'est le prix qu'il faut faire attention de cette voiture-là.
Ouais, hein?
Le prix qu'on vous l'offre, il faut regarder bien comme il faut parce que souvent, dans le véhicule d'occasion, vous allez être capable de dénicher, à moins que vous vouliez absolument une voiture à Lyon, mais vous allez être capable de dénicher des fois des classes C un an en arrière ou même la même année avec un kilométrage équivalent au même prix. Donc ça, c'est le seul élément à faire attention. Et aussi, au niveau fiabilité, c'est correct. Maintenant, ça n'a pas été glorieux avant, mais là, c'est correct.
Ouais, en fait, c'est pas une voiture qui est connue pour avoir des problèmes d'aucune façon.
Non, on n'en voit pas beaucoup sur la route, faut dire, hein?
Non, c'est ça. Ça n'a pas été un succès parce que, comme Daniel le dit, au niveau des voitures d'occasion, en plus, elles sont très chères. Honnêtement, vous devez magasiner pas mal pour être certaine d'avoir quelque chose d'intéressant.
OK. Ben, c'est ça. Apparemment, les pièces, là, vu que c'est une petite voiture, c'est le même prix que les pièces pour une grosse voiture en Mercedes.
Bon, au coût d'entretien avec une classe C, vous n'aurez pas beaucoup de différence.
Les changements d'huile, c'est pareil. C'est le même prix.
Changement d'huile, ils vont vous rappeler que vous êtes chez un concessionnaire haut de gamme. Faites-vous-en pas.
Vous avez bien raison. Hey, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Merci beaucoup d'avoir appelé, Louise. Bon magasinage.
Merci,
bye bye.
Au revoir.
Daniel est en ligne. Bonjour, Daniel.
Moi, c'est moi, Daniel, oui?
Oui.
Bonjour, ben je vous salue à toute l'équipe, M. Philippe et tout. Écoute, vu que c'est une tribune libre, je voulais juste reparler un petit peu de la Formule 1 qu'on a eue cette année.
Oui.
Et moi, je pense que malgré que ça a été... c'est sûr que je n'étais pas un commerçant, mais moi, j'y ai été. J'y ai été. Et cette semaine, il y a eu une petite tribune au niveau de ça où ce que des commerçants du nord de la ville, je crois, qui ne fournissent pas maintenant à convertir des camions. Ils prennent des F-150, ils mettent des moteurs. Mais toutes ces choses-là, moi, je les ai vues parce que je me suis déplacé. Puis oui, ça a été un cafouillis au niveau de l'organisation. Mais comme n'importe quoi... Je pense que on fait fausse route de s'auto-éliminer du circuit parce que dans 15-20 ans, là, je vais vous dire qu'on va être content de l'avoir, le Grand Prix E. À moins que je me trompe, puis que ça sera définitif. Peut-être que M. Lagu pouvait élaborer là-dessus. Mais gardez, moi, je pense que vu qu'on est l'avenir, on a de l'électricité, on a les barrages, on a tout. Je pense que... Oui, effectivement, on a eu un manque au niveau de la transparence de l'équipe qui précédait.
Au minimum.
Oui, c'est sûr. Puis si on aurait pu dire, ben oui, ça a coûté 40 millions, ben puis pour 10 ans, on a éclairé le pont Jean-Cartier, puis on est content. Je pense que la vérité, bon, on peut corriger le tir, puis dire,
mais
Montréal...
Vous avez... Oui. Vous avez raison. En fait, d'une certaine manière, effectivement, tous les événements internationaux sont bons à avoir, à condition qu'ils nous coûtent pas la peau des fesses, on va se dire les vraies affaires, puis qu'ils soient organisés comme il faut. Le problème, c'est que là, on s'est tiré dans le pied dès le départ, et c'est une série qui, pour le moment, est pas super compétitive, pas super attirante pour les amateurs de sports motorisés. Fait qu'on a comme, on s'est comme tiré dans le pied deux fois en présentant peut-être pas dans le bon timing. Mais vous avez raison. Et je suis le premier à le dire. J'ai chialé tout le long de l'événement en disant que c'était mal organisé. Mais je regrette amèrement que l'on s'élimine soi-même d'un événement international. Sauf qu'il faut trouver une façon de le faire autrement.
Est-ce que je suis encore en ligne? Ben, regardez, c'est que le village, qu'il y avait dans le circuit nous montrait tout le monde qui travaillait au niveau de la polytechnique, de toutes les jeunes chercheurs avec les photovoltaïques, les cellules, les moteurs, ben c'en est une. C'est ce côté-là qu'il faut regarder pour regarder dans le futur pour l'électrification. Puis c'est de là que moi, vu que j'y étais puis que je peux en témoigner, ben moi j'ai quand même aimé ça. J'ai 55 ans, j'ai travaillé au Grand Prix du Canada dans une conférence de presse. Je suis un amateur de sport de voiture.
On sait que l'avenir s'en va vers là. J'ai hâte d'entendre Philippe sur la...
Je suis là, mon cher Daniel. Tout à fait là. Alors moi, je vais répondre à monsieur. Premièrement, j'ai 53 ans. Je vais avoir 54 ans bientôt. J'ai couvert des Grands Prix du Canada. Oh mon Dieu, une bonne vingtaine, si c'est pas plus. J'ai couvert des courses de Formule 1. J'ai couvert des courses d'IndyCar. J'ai couvert la course de Formule électrique. J'étais là ce week-end-là. Et je suis désolé, mais il y a à peu près rien de positif à dire côté organisation. C'était un fiasco organisationnel du début à la fin. Ça a été un fiasco sur toute la ligne, également au chapitre des communications, et pas juste du côté du Mercader, du côté d'Evenco également. Alors, tu sais, la formule électrique, la question, c'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Je pense qu'on est beaucoup à y croire, mais est-ce qu'elle est entre les mains des bonnes personnes? Est-ce que c'est le bon promoteur qui est là? Oubliez pas que dans les épreuves originales de la première saison, il en reste 3-4, toutes les villes sont parties une après l'autre. Et oubliez pas une chose, Valérie Plante a proposé aux promoteurs de la formule électrique une pause d'un an. Parce que là, ils ne pouvaient pas réaménager le circuit Gilles Villeneuve l'année prochaine parce qu'il va être en train d'être refait, parce qu'on va refaire les paddocks. Elle lui a juste demandé un peu de flexibilité, une pause d'un an. Je pense pas qu'elle a été radicale et entêtée dans son approche. Et on lui a dit non. Alors, regarde, si ça va si bien que ça, leur affaire, tant mieux. Puis, faites attention, tombez pas dans un piège. Il y a des gens qui sont aveuglés par la formule électrique parce que les grands constructeurs sont là. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont là. Audi est déjà là, Nissan est là, Jaguar est là, Mercedes s'en vient, Porsche aussi. Ça, c'est bien beau, c'est un bel écran de fumée. Mais oubliez pas une chose, c'est un investissement mineur pour les constructeurs automobiles. Ça coûte rien d'aller en formule électrique versus ce que ça coûte pour aller en Formule 1, en rallye, ou même dans les courses d'endurance, où c'est 10 fois plus cher. Alors, ils prennent zéro risque là-dedans. Puis côté image, ils sont à peu près obligés d'être là. Alors,
est-ce que... C'est de démonstration.
C'est ça.
Pour l'instant, en développement, je pense que ça a sa place. Sur le circuit, nous, on a la chance à Montréal d'avoir le circuit. Un circuit qui est peut-être pas fait pour la formule électrique, je suis d'accord, mais avec quelques modifications,
ce serait l'endroit idéal
pour tenir l'événement. On n'écœurerait pas les gens tout partout dans la ville.
Exact.
Déjà, s'il n'y a pas d'événement assez compliqué, alors avec un événement comme ça, ça décuple les problèmes. Alors, sur le circuit, une pause d'un an, tout aurait été parfait, mais là, maintenant, moi, j'ai des doutes de l'attitude. Je suis d'accord avec toi, Philippe.
OK. Est-ce que je suis encore là?
Oui, rapidement, Daniel.
Je pense que oui.
Regardez, on a eu la formule prototype une année, puis on a juste parlé du canal qu'elle sur l'effet d'aspiration.
Wow. Minute. La formule prototype, là, l'année que ça a eu lieu, là, il y avait 12 personnes d'un gradin, puis ils se connaissaient toutes. Tu sais, faut être franc, là. Ça a été un fiasco, ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, faut pas persister dans ce qui lèvera pas, puis dans ce qui marchera pas.
Ben, c'est drôle qu'en Europe, ça fonctionne tout.
Ben, ce qui marche en Europe fonctionne pas automatiquement ici. Ouais. On n'est pas, tu sais, on peut pas uniformiser ça non plus, là. Le rallye, ça marche en Europe depuis des années. Pourtant, on devrait, en principe, être des fans de rallye. On a le pays parfait pour ça. On a les conditions pour ça. Puis pour une raison qui m'échappe complètement, ça a jamais levé ici. Puis on a essayé, là. Moi, dans les années 90, j'étais à la presse et je couvrais le championnat canadien des rallyes. On allait à toutes les épreuves. Écoutez, je vais utiliser un terme poli, mais le monde s'en sacrait. Ça, zéro intérêt. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas non plus penser que parce que toi, t'aimes ça, le reste du monde va aimer ça. Quand les gens suivent pas, les gens suivent pas. Puis, tu sais, vox populi.
C'est ça. Mais on doit persister pour la formule électrique, d'après moi, parce que probablement que ça peut devenir intéressant au fil des années. Pour l'instant, je comprends vraiment que l'engouement n'est pas là. Merci, Philippe. On se parle tantôt.
C'est peut-être le promoteur, le problème en formule électrique, hein? Pour conclure peut-être. Tout ça, là.
Mais je pense que tout le monde est à plaindre un peu là-dedans. Merci. Alors, merci, Daniel. Guy est en ligne. On prend Guy. Oui, bonjour, Guy.
Oui. Attends-moi une seconde.
Oui, on t'attend. Pas de problème.
Moi, bien sûr, là, je vous appelle, là.
Oui.
Il y a un monsieur avant qui disait, là, les gens sur la route, là, tu sais, sont fous, là, pis tout, là.
Mm-hmm.
OK. Regardez, monsieur, là. Ils s'en vont tous, là. Quand on s'en va dans les ordres de pointe, là, ils suivent tous à 10 pieds en tes véhicules à 100 km heure. Ils font ça même en hiver. OK? Puis là, ils se demandent, là, vous dites, vous, faites attention, monsieur, rendez-vous sécuritairement à votre fête, là.
Mm-hmm.
Ben oui, mais distancez-vous, ça n'a pas de bon sens, ça me fait peur. Moi, là, monsieur, j'ai un sale corps des années 60, OK? Mm-hmm. Un 67, là. Puis, voyez-vous des collisions avec ça? Jamais, monsieur. Ça veut dire qu'on va remettre ces véhicules-là sur la route. Puis, il n'y aura plus d'accident? Hey,
non,
distancez-vous.
Je pense pas. Non. Je pense pas, mais prendre ses distances, c'est un superbe point, Guy. Je suis d'accord
oui,
avec
mais,
vous.
Oui, mais moi, là, je reste à Sainte-Marie de Laval, monsieur. Là. Il y a une madame tantôt, là, je m'en vais au dépanneur. C'est un serpent, là, monsieur, là, c'est dans les montagnes. Elle m'a suivi tout le long à 15 pieds en arrière de mon véhicule.
Et savez-vous, mon cher Guy, qu'en théorie, c'est même interdit par la loi, c'est prévu dans le code de la sécurité routière qu'on est supposé laisser une distance sécuritaire entre les véhicules. Bon, je vais être honnête, j'ai jamais vu une police arrêter personne spécifiquement pour ça, mais ben, ils auraient le droit de le faire.
Oui, mais c'est ça qui est invraisemblable, monsieur. Là. Comment ça se fait? Moi, l'autre jour avant hier, là, je m'en vais dans le trafic, l'ambulance, tout le monde... Il y en a un, il clenche, il s'en va sa voie de gauche. Là, à un moment donné, sa voie, là, elle ralentit. Là, tu repasses à côté. OK?
C'est incroyable.
J'ai vu des gens, là, même pas de lumière. Ils sont sur les phares de jour. Je l'ai klaxonné une dame, là, en dessous d'un viaduc. J'ai klaxonné tout le temps pour qu'elle se vire la tête, là, monsieur, là. Elle ne s'est même pas virée la tête. Un véhicule noir, pas de lumière.
Incroyable.
J'en ai vu cinq.
On va être prudent et on va faire attention. Merci beaucoup, Guy. On doit aller à la pause. Alors, au retour de la pause, Philippe va être là. Restez avec nous.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Bon, nous sommes de retour et dans pas long, on reprend vos appels, mais Philippe doit faire une rétrospective 2017 de ses essais routiers.
En fait, Daniel, ce que je vous propose, c'est plus qu'une rétrospective, c'est un top 10. Hein? Les gens aiment ça aujourd'hui, les top 5, les top 10, les top 20. Alors j'ai dit, bon, on va y aller avec le top 10 des essais routiers. Je tiens tout de suite à dire que sur ma page Facebook, j'ai mis des photos des 10 voitures en question. Et je pense qu'il y a 8 ou 9 de ces 10 voitures-là sur lesquelles vous pouvez trouver là, des essais complets sur mon site, là, philippelagu.com. Et, tu sais, Daniel, d'habitude, on garde le punch pour la fin, là.
Ouais.
Mais là, bon...
Tu commences pas par le 10.
Je vais commencer par le 1. Okay. Je vais commencer par le 1 parce que, bon, tu le sais, le facteur temps, ça nous bouscule souvent.
Ouais.
Alors, j'ai dit, moi, il faut quand même parler de la plus importante tout de suite en partant. Et c'est celle qui a été ma préférée. Puis c'est une voiture dont je ne vous ai pas parlé à Auto 360 cet automne parce qu'on n'a pas eu le temps. Puis j'en avais d'autres aussi. Et c'est la Jaguar F-Type 400 Sport. Ça, vraiment, cette année, là, ça a été ma voiture préférée. Puis, je vais faire un petit clin d'œil à ma conjointe qui, quand même, embarque dans toutes sortes de voitures, elle aussi, depuis quelques années, depuis qu'on est ensemble. Et ça a été, je dois le dire, hein, de loin, sa voiture préférée, elle aussi. Je constate d'ailleurs que, puis je ne sais pas si tu as observé la même chose, toi, Daniel, mais les Jaguars, c'est vraiment des voitures que les femmes aiment beaucoup.
Ben oui.
Moi, c'est
les Jaguar et les Volkswagen Golf, je sais pas pourquoi, mais
ouais,
effectivement.
Bon, là, on est dans deux
affaires,
deux extrêmes.
Mais ça plaît aux femmes.
Mais écoute.
Mais les Jaguar, t'as raison, puis la F-Type plaît, aux femmes, mais je pense que.
Toutes les Jaguars, tu sais, moi, ça fait, plus de 25 ans que je fais ça. J'ai travaillé dans des milieux, tu sais, un peu intello, tu sais, des fois, on snob un petit peu l'automobile. Tu sais, je travaillais à la presse, au Devoir, à Radio-Canada, tout ça. Puis, tu sais, si j'avais une Porsche, une Ferrari, peu importe, ça faisait pas... Tu sais, ça changeait pas grand-chose dans la vie de grand monde, ça paraissait, là. Mais une Jaguar, écoute, ça avait un impact et surtout sur les femmes. Alors, il y a quelque chose entre les femmes puis les Jaguars, et je ferme la parenthèse là-dessus parce que il n'y a pas juste les femmes qui les aiment. Moi aussi, j'aime ça.
Et voilà.
Puis la F-Type, la version 400 Sport, j'ai tellement aimé ça. Je trouve que c'est la Jaguar la plus équilibrée, la plus balancée. J'explique c'est quoi une 400 Sport. D'abord, si vous êtes un collectionneur, c'est un très bon achat à faire, hein, parce que c'est une voiture qui est commercialisée en édition limitée juste pour un an. Alors, c'est juste l'année modèle 2018. Et vous le savez, bon, chez Jaguar, hein, on a... une échelle très variée de moteurs. On a un large rayon. On a des sapeurs avec un 4 cylindres de 2 litres de presque 300 chevaux, 296 chevaux, jusqu'à un V8 de 5 litres de 550 ou 575 chevaux si on prend la version optimale. Il y a aussi des V6, 340 et 380 chevaux. Mais là, la 400, comme son nom l'indique, a 20 chevaux de plus, donc 400 chevaux. Des freins plus puissants, un châssis qui est un petit peu amélioré et aussi une décoration intérieure exclusive là, avec les sièges performance, les surpiqûres aussi là, qui sont distinctives. Alors, c'est très, très, très réussi.
Toutes les moulures de bas de caisse là, devant avec le petit 400. Là,
es-tu belle? Hein?
La bavette à l'avant. Là.
Non, mais...
Type Formule 1, là, c'est vraiment cute.
Es-tu belle?
Ah, ouais.
Moi, la F-Type, déjà, là, c'est une voiture qui me fait plier les genoux, là, mais cette version-là, en plus, là, j'ai trouvé ça fantastique. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le moteur parce que grâce au compresseur, contrairement à un turbo, il n'y a pas de temps de réponse.
Il y a toujours de la puissance.
La réponse est instantanée, exact. Tu sais, puis la puissance, ben c'est un petit peu moins brutal que le V8, puis surtout la sonorité est moins extrême que celle du V8 Jaguar. Là-dessus, sont allés un peu fort là, surtout avec les détonations là, tu sais, à l'échappement quand on rétrograde entre autres là. Mais bon, en même temps, on peut toujours mettre ça très très fort quand on met le mode dynamique là. Ça, c'est sûr que le voisinage au complet va savoir que vous venez de démarrer votre Jaguar. Les performances,
donc,
ben écoute,
depuis que Jaguar a lancé la F-Type, c'est la deuxième à collectionner. Ils ont lancé une Projet 7.
Oui.
Déjà.
Oui.
Et là, celle-là, la 400, ça fait déjà deux.
Oui, très bon point. Très bon point. Alors ça, là, vraiment, là, c'est une voiture très intéressante. Performance aussi qui sont vraiment athlétiques. T'sais, c'est une voiture qui n'est pas si lourde que ça. On fait le 0-100 en moins de 5 secondes, ce qui est une espèce de Saint Graal aujourd'hui. Là. Et bon, il y en a qui le font en moins de 4 et même en moins de 2, mais là, on tombe dans les supercars ou les hypercars. On est dans le 500 000 et plus ou dans le 1 million et plus. Et une voiture qui fait du bon travail partout, boîte automatique aussi, qui est toujours fluide, hein, qui n'est jamais saccadée, il n'y a jamais d'hésitation. La direction, écoute, c'est exactement ce que devrait être la direction d'une voiture sport. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait triper de cette voiture-là, c'est que c'est une voiture qui est idéale pour toutes les conditions. C'est une voiture qu'on peut utiliser sur une base quotidienne, même si c'est une voiture sportive, même si c'est une voiture musclée. C'est une voiture qui est capable d'être très confortable. On ne se lasse jamais de conduire une F-Type, peu importe le type de parcours. Puis moi, écoute, cette année, c'est l'une des voitures dans lesquelles j'ai passé le plus de temps. Je n'ai jamais ressenti le moindre inconfort, non, la moindre fatigue.
J'ai trouvé ton oreiller dans le coffre d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Et madame a trouvé ça aussi confortable, aussi. C'est important de le dire, là, tu sais, il y a un passager ou une passagère à côté, là, qui...
Philippe, on va devoir accélérer les autres points.
Qui a vécu tout ça, là. Oui, mais tu comprends pourquoi je voulais commencer par elle. Parce que les autres, compliqué. De toute façon, c'est des voitures dont on a déjà parlé aussi. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre
l'accent. Alors, la deuxième.
Ben, la BMW 8, hein. Je pense que si vous avez écouté ce que j'en ai dit à Auto 360, vous serez pas très surpris. C'est une des expériences les plus marquantes de ma carrière. Il y a juste ça que je peux dire. Il y a des choses qui m'ont agacé d'entrée de jeu. On en avait parlé, mais j'ai tellement aimé la voiture de plus en plus, de jour en jour, que les irritants ont fini par s'estomper. Alors, la I8, vraiment, c'est marquant. L'Aston Martin DB11, parce que conduire une Aston Martin, Daniel, c'est un privilège, hein, même pour un chroniqueur automobile qui a plus d'un quart de siècle d'expérience. Bien, un privilège, ben, ça ne se refuse pas. C'est une marque que je connais très bien. J'ai même visité les deux usines, l'ancienne et la nouvelle, mais c'était seulement la deuxième fois que je conduisais une Aston Martin. Puis, tu sais, c'est une V12 en plus. Puis, je peux compter sur les doigts de la main les fois où j'ai conduit des voitures à moteur V12 dans toute ma carrière. C'est aussi une des voitures les plus chères que j'ai pu conduire. Mais pourquoi est seulement troisième? Parce que c'est quand même une Aston Martin. Ben, tout simplement, probablement parce que je ne l'ai pas conduit assez longtemps. Un après-midi seulement, puis là-dessus, il fallait prendre des photos, tourner des vidéos. Alors, ça a été un moment un petit peu trop court. Puis un autre facteur aussi, moi, le V12 biturbo, là, ça ne m'a pas donné autant de frissons que le V12 atmosphérique. C'est probablement parce que je suis un puriste. Mais bon, question de sonorité surtout. Bref, si je devais m'acheter une Aston Martin, ce serait une Vanquish. Parce que justement, je suis un puriste. Quatrième, ben, le duo Mazda MX-5 et Fiat 124 Spider. Ça, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai commencé ma carrière en 1991, à chaque année, la Miata est une de mes voitures qui me procure le plus de plaisir. Je le sais, on dit plus Miata, on dit MX-5 maintenant.
Quelle erreur!
Mais, ben non, c'était voulu parce que
De toi, de Mazda, d'avoir gardé
ça. Oui, de pas avoir gardé Miata. Mais je suis tellement d'accord avec toi parce que les chiffres et les lettres, là, à un moment donné, on s'y retrouve plus.
C'est ça.
Hein? Bon. Et pour la première fois...
Tout le monde le sait.
Ben oui, exact. Voilà. Puis pour la première fois, la MX-5 a une jumelle, c'est la Fiat 124 Spider. Mm-hmm. On a pu les conduire toutes les deux. On en a parlé ici à Auto 360. Et ça, c'est la preuve aussi que des voitures n'ont pas besoin de coûter 75 ou 100 000 pour donner beaucoup, beaucoup de plaisir. Ceci étant dit, j'ai une petite réserve. Hein? Les versions les plus chères des MX-5 et des Fiat 124 Spider, on est quand même rendu à pas loin de 50 000. Ça commence à faire un peu cher pour des voitures à 4 cylindres, là, tout de même. Voilà. Chevrolet Corvette Grand Sport, c'est ma cinquième. Pourquoi c'est juste ma cinquième alors que la Corvette est une de mes voitures préférées? Parce que la version Grand Sport, c'est vraiment un peu trop extrême pour moi. Mon oncle qui a passé l'âge, là. Réellement, là. Mais, tu sais, c'est une Corvette de piste. Mais c'est quand même une Corvette, alors j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à conduire ça, même si j'ai perdu quelques plombages, comme je l'avais mentionné. Lexus LC500 en sixième place, parce que... Quelle gueule, Daniel, mais quelle gueule. Moi, ça fait longtemps qu'une voiture japonaise m'a pas décroché la mâchoire.
On dirait un prototype sur roue.
Oui! D'ailleurs, tu te souviens, on avait vu le prototype au Salon de Los Angeles.
Et voilà.
2 ou 3 ans avant qu'elle sorte, et elle est identique au prototype. Voiture qui est belle, qui est rapide, qui est confortable, qui est silencieuse, c'est une vraie GT, mais elle a une qualité qui est rare dans la catégorie des voitures exotiques, c'est la fiabilité. C'est quand même pas rien. Puis je peux te dire que si elle avait été juste un peu moins lourde, elle serait peut-être dans mon top 5. Mais c'est quand même une voiture assez phénoménale. Cadillac CT6 en 7e place. Et ça, c'est une surprise. D'abord, parce que c'est une voiture que j'ai conduite seulement la semaine dernière. Et honnêtement, Daniel, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et j'ai vraiment trippé sur cette voiture-là. On le sait, Cadillac, hein, ils mettent leur châssis au point au Nürburgring maintenant. Et ça commence à paraître. Hein? Moi, j'avais rarement conduit une voiture de luxe américaine qui avait un aplomb comme ça sur la route. Et c'est ce qui me l'a fait devancer même la Lincoln Continental.
Oui, c'est étonnant, ça.
Et pourtant, une voiture que j'ai adorée cette année. On s'en est parlé en long et en large.
Oui.
Mais la CT6, écoute, le châssis, de cette voiture-là.
C'est solide.
Le comportement.
Je pense que les roues directionnelles font un très bon travail
aussi,
à l'arrière.
Oui.
C'est peut-être une des raisons pour laquelle on la sent si sécuritaire sur la route.
Puis la direction, c'est ultra précis, je veux dire. On est loin des Cadillacs là, qu'on a pu conduire dans les décennies précédentes. On est à des années-lumière. Je termine avec les deux dernières. Ford Focus RS, une voiture dont on n'a pas parlé à Auto 360, mais moi, c'est ma préférée dans la catégorie des mini-bombes, là, des pocket rockets. J'ai aussi pu conduire cette année la nouvelle WRX STI. J'ai pu conduire également la Golf R. Ce sont ces deux rivales directes. Mm-hmm. Et si je devais m'en acheter une, moi, ce serait la RS. J'ai tout aimé de cette voiture. Et en dixième place, ben écoute, une valeur sûre, un amour de jeunesse, la Challenger.
Voilà.
Hein, ça a des gros défauts, mais en même temps, quelle personnalité. Quel bel hommage à l'ancienne, à la Challenger originale également.
Tu me nommes tes déceptions rapidement?
Rapidement, on a le temps, je te fais ça vite. L'Alfa Romeo Giulia, sais-tu pourquoi? Parce que j'aime viscéralement les Alfa Romeo. Puis je m'attendais à un peu plus, et surtout je m'attendais à un peu plus côté sonorité. Moi, un Alfa Romeo qui a un moteur qui sonne pas, c'est pas une Alfa. C'est aussi simple que ça. Cadillac XTS, que j'ai conduit il y a deux semaines, avant la CT6. Je me demande d'abord pourquoi on la garde chez Cadillac maintenant qu'on a la CT6. Puis, tu sais, ça commence à sentir le passé date un peu, surtout avec l'ancien système Q qui me faisait tant enrager et qui m'a encore fait enrager il y a deux semaines. Et j'ai pu constater avec la CT6 qu'on l'avait enfin amélioré. Chrysler Pacifica, c'est une déception, mais le mot est peut-être un peu fort. C'est juste que je m'attendais à plus. C'est quand même la plus luxueuse des mini-fourgonnettes chez Chrysler. Puis tu sais, j'ai conduit, peu de temps après, j'ai conduit l'Honda Odyssey. On n'est pas là encore. On n'est pas au même niveau. Et légère déception aussi pour la Jaguar XE. J'ai trouvé que c'est une voiture qui manque un peu de raffinement pour faire jeu égal avec ses rivales allemandes. Hein. Il suffit de conduire une petite Mercedes classe C ou encore la dernière Audi A4 pour se rendre compte que sont pas tout à fait là. Il y a des grosses qualités, le châssis, la direction, entre autres, mais c'est pas aussi bien insonorisé. C'est pas tout à fait le même niveau de confort. Et surtout, la mécanique, ça manque un peu de raffinement. Moi, le 4 cylindres, entre autres, là, de la Jaguar XE, c'est une déception. Ah, voilà.
Bon, merci beaucoup, Philippe. On se reparle un petit peu plus tard pour parler le bloc Formule 1.
Et de Lance Stroll.
Et de Lance Stroll, pourquoi pas. On s'arrête et on revient. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360. Avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard dans un instant. Hey, on va prendre vos appels. Restez là au retour de la pause nouvelle. On va parler de F1 avec Philippe et après, le reste de l'émission, on prend vos appels. Marc, est-ce qu'il y a des nouvelles de l'industrie?
Ouais, écoute, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Volkswagen et le Dieselgate. On pensait que c'était fini. On avait oublié qu'il y avait aussi des moteurs 3 litres qui avaient été affectés par ça. On parle de 20 000 véhicules à peu près au Canada. Il semble qu'il y a une entente qui a finalement été entérinée cette semaine. Les propriétaires de véhicules 3 litres vont donc être aussi dédommagés. Évidemment, on parle de compensation financière, on parle de possibilité de rachat, on parle de réparation du véhicule comme tel. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas rendu public encore les montants qui vont être remis aux propriétaires de ces véhicules-là. Aux États-Unis, à titre d'information, ça jouait entre 8 500 et 17 000 $. Donc, c'était quand même un montant important. Mm-hmm. On verra ce que ça va donner chez nous. Jusqu'à maintenant, pour information, 14,7 milliards de dollars qui ont été donnés aux États-Unis seulement par Volkswagen. C'est de l'argent pas mal, mais là, bon, il semble qu'on voit enfin le bout du tunnel avec ça. Donc, une bonne nouvelle pour Volkswagen et les propriétaires.
Ça n'a pas dû les affecter parce que une autre nouvelle que j'ai vue passer où on disait que Volkswagen, le groupe Volkswagen Porsche Audi allait investir 50 milliards jusqu'en 2025.
Ouais, 50 milliards
dans les années. 2050 ou
2030 que j'ai vu, 2030? Moi. Ouais, c'est pour les installations de construction de voitures électriques. entre autres, et d'électrification. On sait qu'ils ont annoncé qu'il y aurait 32 véhicules électriques d'ici 2025. En tout ou en partie, il faut le préciser, là, c'est pas des véhicules 100% électriques. C'est comme les autres, on va faire des hybrides. Donc, oui, Volkswagen va effectivement investir tout ça. Et parlant d'hybrides, une dernière petite nouvelle avant de répondre aux appels. Honda qui va au Salon de Détroit nous présenter la Honda Insight. Et on a dévoilé cette semaine des photos. Je suis obligé de te dire que c'est probablement la plus belle Honda que j'ai vue depuis fort longtemps. Si je trouve que les autres sont un peu torturés dans le design, là, celle-là, elle est vraiment beaucoup plus jolie. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne Insight qui avait l'air d'une soucoupe volante. Là. Celle-là a l'air vraiment d'une belle berline. Allez voir les photos, c'est super beau.
Première Insight avait l'air d'une soucoupe volante. Là. Ça, c'était correct parce qu'il fallait faire différemment. La deuxième, on a essayé d'imiter la Prius. C'était pas fort.
Non.
Puis là, ce que j'ai vu, c'est un mélange de Civic Accord. On joue un petit peu là-dedans. Là, c'est vraiment bien.
Sans les éléments un peu, disons, psychédéliques là, qu'on a ajoutés un peu sur la Civic, entre autres, là, les phares avec ces différentes formes.
Des éléments psychédéliques sur une Civic, voyons.
Mais regarde le design d'une Type R, on s'en reparlera, mon cher.
Ben oui, OK, la Type R, mais là, une Civic. Là.
Mais regarde les phares.
Accord. Mais là, je conduis l'Accord que j'adore, d'ailleurs. Le design, là, je regardais le design ce matin, le toit sport, tu sais, la version, ce qu'on a fait, on a réussi à faire un design un peu plus sport, le devant qui rappelle étrangement celui de la Civic. Ouais. Donc, vraiment, on a fait un beau travail de ce côté-là au niveau design. La casse et de valeur au niveau du bloc instrument, je trouve ça un peu... on aurait pu l'user un peu. Moi, j'aime pas les indicateurs d'essence à lumière. Tu sais, c'est toutes des petites lignes, une en arrière de l'autre. Là. Je sais pas, je suis traditionaliste, mais j'aime l'aiguille normale, mais les petites lumières dans le coin, je sais pas, j'aime pas ça. Mais le reste, l'intérieur, on a fait tout qu'un pas en avant.
Oh, ben, il faut dire que dans cette catégorie-là, cette année, ça a avancé pas mal. Pense à la Camry. Alors, je pense qu'on est vraiment dans une catégorie qui se vend plus, mais où les gens réussissent à s'allier, à faire des beaux véhicules.
On a Gary en ligne. Bonjour, Gary.
Oui, salut, ça va?
Oui, ça va très bien.
Oui, bien, félicitations pour l'émission.
Merci.
Moi, ma première voiture, c'était un MGB il y a fort longtemps, décapotable. Fast forward à aujourd'hui, je regarde la Porsche 718, la Boxster, et un Audi TT. Puis je me demande, point de vue fiabilité, valeur de rachat et toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous en pensez?
Vous avez deux véhicules qui sont à peu près équivalents en termes de fiabilité. Porsche a toujours eu des bonnes notes. Audi progresse abondamment. Moi, j'avoue avoir un faible pour la Porsche Boxster dans sa version là la plus légère. La Audi TT, je l'aime mieux en version coupée. Je suis plate de même là. Je la trouve très belle en version coupée. Honnêtement, elle est super belle. Ce sont deux bonnes voitures qui se conduisent cependant très différemment. Et ça, ben, ça va prendre un essai. Mais en termes de coût, en termes de valeur de revente, vous avez deux véhicules qui vont être à peu près dans la même braquette là.
Moi, je les ai conduits les deux cet été. La 718 m'a impressionné et pas à peu près. Vraiment une voiture très équilibrée qui fait tout de bien. Vous pouvez la mettre sur la piste, elle va bien se débrouiller. Vous pouvez faire au quotidien, elle va bien se débrouiller. La TT, la même chose. Mais là où j'ai eu un coup de cœur, c'est la TT RS. Là, si vous pouvez mettre la main sur la TT RS, puis c'est pas utopique de parler de la TT RS parce que elle va être encore moins chère ou à peu près dans les prix d'une 718 de base. Alors, si vous pouvez vous permettre peut-être la version haute performance qui est elle a déménagé. En version coupée, là, je l'ai adorée.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence dans le torque hein, entre le RS et le TT normal, me semble.
Je me souviens pas des chiffres au niveau du couple, mais le 5 cylindres en ligne, oui, il y a une bonne différence au niveau de la puissance lorsqu'on fait place, lorsqu'on prend le 5 cylindres en ligne, là, le moteur est vraiment placé vers l'avant et on voit la différence de puissance, c'est assez impressionnant. Un essai routier, ça va faire toute la différence, vous allez pouvoir constater entre les deux, vous allez voir que ça déménage.
C'est vrai, la Porsche est vraiment impressionnante. L'affaire avec le TT, il y a beaucoup de gadgets là-dedans. Mais je me demande si ces gadgets-là sont aussi vont taper.
C'est pas loin d'être la même base en plus au niveau de la voiture. Donc on est dans la même compagnie, on est dans les mêmes choses. C'est un choix pas facile, je vous le dis. C'est un choix pas. La TT de base, je l'enlève. Là. Mais si vous prenez la TTRS, une 718, je voudrais pas avoir à choisir entre les deux.
Puis la RS a 100 livres pieds de coupe de plus que la coupée ordinaire chez TT. Hein. Ah oui, ça fait pas mal de coupe de plus.
On vous revient, restez là.